Vous êtes sur RTL.
Quoi ? RTL.
Il n'y en a pas, moi, je ne sais pas comment ça s'appelle, la bestiole avec les pinces, là. Pas la crevette. La crevisse.
La curiosité est un vilain défaut.
Ah, c'est la homard à l'américain. Ben voilà, je vais prendre ça.
Si Denis Bonnec.
Il y a plus de carcasses que des homards, là. Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Il a fait un atterrissage forcé ?
Thomas Huc.
Ils se sont battus dans les viviers. Eh ben alors, apportez-moi les vainqueurs, pas les vainquis, bon sang.
Ah, génial. Extrait d'un sketch signé Popek. Évidemment, c'est vrai qu'on va dévorer quelques-uns de ces fruits de mer pendant les vacances de Noël. Ça nous a donné l'idée, à la curiosité, de savoir comment ils se reproduisent. Et alors forcément, quand on pense sexualité des animaux, le nom qui nous vient en premier, Sidonie...
C'est Marc Giraud.
C'est celui de Marc Giraud. Bonjour,
à cause
Marc.
Des animaux, bien sûr.
Mais oui, à bonjour cause à des animaux. Bonjour Marc, vous êtes naturaliste de terrain, chroniqueur dans l'émission de Stéphane Bern sur RTL, amoureux et défenseur de la nature. Et on va donc commencer avec ce homard qui désole Popek parce qu'il est un peu rachitique sur son plateau de fruits de mer. C'est le roi du plateau de fruits de mer. Comment il fait pour s'accoupler ?
Alors d'abord, il drague. Et pour draguer, il envoie des phéromones. C'est classique. Les crustacés, ils fonctionnent beaucoup comme ça en chimique. Et ces phéromones, il les envoie par l'émiction, mais elles sortent par des trous sous les yeux. Autrement dit, pour draguer, il fait pipi par les yeux. Ça commence comme ça.
Ça commence bien.
D'accord.
Et, là, comme les crustacés sont comme des chevaliers en armure, il faut bien qu'il y en ait au moins un ou plutôt une des deux qui se déshabille, sinon il n'y a pas de reproduction possible.
Donc attendez, Madame Omar, pardon,
comment elle peut l'enlever son
alors,
carapace ?
Il mue régulièrement parce que la carapace, comme une armure, ne croît pas. Croît dans le sens croître.
Et
quand la bête grandit, il se retrouve à l'étroit. Elle se retrouve à l'étroit, donc elle change de carapace.
Mais ça c'est pas tout le temps de changer de carapace
Non, c'est de temps en temps, régulièrement. Heureusement, parce que c'est quand même beaucoup d'énergie. Donc quand la femelle va muer, elle envoie des phéromones, elle aussi, pour calmer un peu le homard, bisque quand même. Et ça l'excite. Donc lui, il en pince pour elle, on va pas arrêter. Et donc, il drague, il se titille des antennes, enfin bon, voilà, il tourne autour.
Il y a une petite parade nuptiale, quand même.
Une petite parade sous-marine, bien sûr.
Ah.
Et il y a un moment où, si la femelle n'est pas encore tout à fait déshabillée, le mâle l'aide parce qu'il est un petit peu chaud, il est pressé.
Mais il est galant aussi, peut-être.
Oui, peut-être.
Mais voilà. On a du mal à imaginer la scène. C'est-à-dire qu'il est suffisamment délicat pour attraper la carapace
avec ses petites pinces, il a plein de pattes dans tous les sens. Oui. Mais de toute façon, la carapace, elle est prête à tomber. Donc, si elle n'est pas complètement tombée, voilà.
Alors là, on a nos deux homards qui sont prêts à copuler ou à faire l'amour. Et donc, ça se passe comment, la reproduction entre les deux ?
Alors, ils sont des rares, parmi les rares animaux, avec nous-mêmes, à faire l'amour face à face.
Est-ce qu'ils peuvent se regarder les yeux dans les yeux ? Pas forcément. Est-ce qu'ils peuvent se regarder les yeux dans les yeux ?
Sauf quand ils font
s'ils ont les yeux qui partent sur le côté.
Ah oui, mais alors c'est au bout de pédoncules amovibles, donc ils ont une vue un peu comme les caméléons, ils voient comme ils volent.
Donc les voilà face à face.
Donc elle toute molle et lui tout dur. Donc il peut introduire ses instruments dans les voies génitales.
Mais attendez, quel instrument ?
Alors, en fait, il se fait un petit paquet de sperme, pour être précis, on va rentrer dans
la...
C'est Noël, c'est la sexualité, joyeux Noël.
Donc, et c'est comme ça, il introduit son paquet de sperme dans la femelle, et ces spermatozoïdes sont des espèces de missiles explosifs.
Pardon ?
Oui. Ah oui, mais les homards, c'est tout un truc.
Vous avez pris l'avance sur les fêtes, Marc Giraud, là, ou quoi ?
J'ai commencé par les champignons.
Tout ce que vous nous dites est vrai. Donc, des missiles explosifs.
Oui, c'est-à-dire qu'arrivé dans les ovules, ça éclate, comme ça, c'est sûr de féconder la femelle.
Okay.
C'est les merveilles de la nature.
Mmh. Et alors, elle est vivante, la femelle, après, ou pas ?
Elle est en pleine forme. Explosé de l'intérieur. Donc, ça, on imagine quoi ? On imagine combien de bébés homards en gestation ?
C'est des milliers. Oui. Donc, ça fait des œufs.
Oui.
Portés à l'extérieur,
mais ça, tous ceux qui en ont mangé, des crustacés, que ce soit des langoustes, des crevettes ou autres, on voit qu'il y a des paquets d'œufs qui sont devant la femelle. Chez les crabes, c'est pareil. La femelle crabe, elle a un plastron très large pour mettre tous ses œufs. C'est comme ça qu'on reconnaît les filles des garçons chez les crabes.
D'accord.
Donc, et quand les petits seront éclos, ils vivent leur vie tout seuls. Voilà.
Ça veut dire que maman homard s'en occupe plus.
Non, c'est pas.
Et papa, il est passé. Voilà.
De toute façon, elle a fini sur un plateau de fruits de mer, donc on peut pas élever grand chose.
On va pas tous les manger. Marc Giraud, vous publiez La vie extraordinaire des animaux.
Lidl.fr.
Ciao, tutti et tutti. Il est 10h sur Radio Monaco. Vous êtes avec Matteo jusqu'à midi. Croyez-moi, le programme est chargé de bonne humeur, de cocotier, de palourdes.
Sidonie Bonnec, Thomas Huc.
Les curieux sont sur RTL.
On les tue dans la nuit, elles étaient 20 et 100, elles étaient des douzaines, les huîtres de ma reine.
La vie sexuelle de notre plateau de fruits de mer, c'est le thème de la curiosité du jour avec Marc Giraud, notre naturaliste préféré. On voulait finir sur ces homards qui, la femelle se retrouve à poil à un moment de sa vie. En fait, elle est,
elle
c'est
est
pas
vulnérable.
Juste déshabillée pour son mâle, mais bon, elle fait une mue et c'est ce qui permet au couple aussi de se reproduire. Et donc, elle est toute nue, mais elle est vulnérable à ce moment-là. Ça met du temps à repousser.
Oui, oui, comme les crabes, comme les crevettes, comme tous les crustacés, quand ils sont comme ça, sans carapace, donc tout nus, ils se planquent. Hein. Il se régénère dans un coin, ça peut prendre plusieurs semaines et là il bouge pas trop.
Bon, après le homard, on va goûter aux huîtres, ou en tout cas goûter aux histoires de reproduction des huîtres. Il y a beaucoup d'espèces différentes d'huîtres.
Ah oui, dans le monde oui, et chez nous on a commencé par l'huître plate, celle qu'on appelle de Belon. C'était celle que mangeaient les Romains, qu'on a mangée à la préhistoire. Au XVIIIe siècle, on racontait que de Biarritz à Dunkerque, il n'y avait qu'un seul banc, tellement il y en avait des milliers et des milliers. Et avec le train, ça a commencé à se développer, de consommer des huîtres jusqu'à Paris, tout ça, parce qu'on pouvait les transporter, les moins en air. Et aujourd'hui, au bout d'un moment, il y a eu une crise, ouais. Et donc on a importé des huîtres du Portugal, les creuses.
D'accord.
Et il y a eu un échouage où les Portugaises sont échouées et ont fait souche. Mais les gens détestaient cette huître étrangère, d'où l'expression les Portugaises ensablées.
Ah oui,
parce qu'une Portugaise, ça a une forme d'oreille un peu. Et voilà. Mais finalement, on a fini par l'adopter parce qu'elle est aussi bonne que les autres.
Ah,
et après, il y a eu les Japonaises. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Mais là, on rentre dans la gastronomie. Moi, je suis qu'un malheureux naturaliste. Donc, je m'occupe des animaux vivants. Et ce que j'aimerais bien, justement, c'est montrer que ces animaux, d'abord, on n'imagine même plus que c'est des animaux tellement c'est statique. Mais ce sont des animaux avec un petit cœur qui bat. Et une sensibilité, et qui sont intéressants à regarder vivre.
Et avec une sexualité, on va parler des huîtres plates, justement, qui peuvent choisir leur genre. C'est ça?
Alors oui, les huîtres sont plates, sont transsexuelles, donc elles commencent mal.
Ouais.
Et si tout va bien, si elle rencontre d'autres mâles, elle se transforme en femelle. Et au bout d'un moment, pour qu'il y ait ce qu'on appelle une sex ratio,
un équilibre
entre les mâles et les femelles, celles qui sont devenues femelles empêchent les autres mâles de se transformer.
Comment?
Comme ça, il y a toujours, avec des phéromones, c'est toujours les mêmes histoires, elles envoient des phéromones. Donc, quand même, comme ça, il y a toujours de quoi se reproduire.
C'est commun, ça, dans l'océan, cette transsexualité chez les animaux, Marc
Giraud? Oui. Alors, les huîtres plates, en plus, elles le font dans les deux sens, c'est-à-dire que si ça manque de gars, elles redeviennent gars. Enfin bon, voilà, elles changent de sexe comme de caleçon, donc c'est assez pratique, hein. Ouais. Ça peut faire rêver. Et chez les poissons, c'est très fréquent. Les mérous, par exemple, eux, ils commencent femelles et ils terminent mâles, toujours. Et les girelles, tout un tas de poissons comme ça sont transsexuels.
Pour les enfants, c'est perturbant, non?
C'était
une vanne. On peut ne pas la garder, mais comme on est en direct, on va la garder.
On est en direct. Mais donc, la particularité de l'huître plate, c'est qu'elle peut changer de sexe et revenir en arrière, hein,
j'ai bien
compris.
Par rapport au poisson qui ne change qu'une fois.
Voilà. Oui. Et alors, la reproduction, comment ça marche?
C'est pas super sexy parce qu'elle bouge pas, hein. Donc, elles peuvent pas se déplacer.
Bah oui. Elle déshabille pas l'huître?
Non. Donc, elle joue juste à s'entrebâille, elle balance ses gamelles sexuelles, que ça soit mâle ou femelle.
Ouais.
Tout ça est fécondé dans l'eau. Ça fait des toutes petites larves microscopiques qu'on appelle les larves véligères parce qu'elles ont des voiles et qu'elles font partie du plancton. Ça se balade. Mmh. Et à un moment, ça se pose sur un rocher et ça se développe.
C'est comme ça qu'elles deviennent des huîtres.
Oui.
J'imagine que ça prend de longues semaines. Ça veut dire qu'il y en a pas mal qui sont mangées puisqu'elles sont au milieu du plancton.
Dans le plancton, c'est filtré par des tas d'animaux. Oui, mais presque tous les animaux, les crabes, c'est pareil, ça commence plancton. Hein.
Mmh. Et le naissin, c'est ça, c'est le bébé huître?
C'est l'ensemble, oui.
Oui, c'est l'ensemble. Marc Giraud, vous publiez La vie extraordinaire des animaux qui nous entourent, c'est aux éditions Pocket. Et à côté des huîtres, sur notre plateau de fruits de mer, il y a les moules. En deux mots, comment elles font pour se reproduire?
Alors, c'est un peu pareil que les huîtres. Enfin, papa moule et maman poule. Elle est un peu plus maman poule, la maman moule.
Vous avez mis un papa poule, mais...
Attends, vous nous parlez d'une sexualité entre les gallinacées et les...
je mélange tout. Alors c'est pareil, le mâle éjecte son sperme dans l'eau, mais c'est la femelle qui l'aspire par ses valves, qui sont en même temps respiratoires et alimentaires, parce qu'elles se nourrissent en filtrant l'eau. Donc voilà, c'est madame qui aspire.
Et puis il y a une petite surprise à l'intérieur des moules, parfois. On trouve des tout petits crabes, et bien quoi?
Eh bien, bonjour, je suis avec Marcel, recordman d'ouverture d'huîtres.
La curiosité est un vilain défaut.
J'ai ouvert 2064 huîtres en une heure, 36 huîtres en une minute et les yeux bandés 28.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Alors pourquoi est-ce que vous ouvrez les huîtres les yeux bandés? Comme ça, s'il y a une panne de courant, je peux continuer à les ouvrir.
Sur RTL.
Je fais que les ouvrir.
D'accord.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre avec une huître fermée?
Je sais pas, un cendrier.
Un cendrier, c'est ouvert. Comme un concombre.
Sketch signé Garnier et Santoux. Vous allez pouvoir déguster et discuter autour de votre plateau de fruits de mer pendant les fêtes grâce à notre invité, le naturaliste Marc Giraud, qui nous dévoile les secrets de la sexualité des homards, crevettes, huîtres et autres moules. Et parfois, dans certaines moules, Marc, on trouve un tout petit crabe. Ça nous est tous arrivé. Quel est son nom et comment est-il arrivé là ?
Alors en fait, c'est pas une proie de la moule, parce que les moules se nourrissent en filtrant l'eau.
Oui.
Donc c'est 5-8 litres d'eau de mer par heure quand
donc
même.
Elle ne se laisserait pas avoir, c'est ça ?
Non, voilà, ouais. C'est beaucoup trop gros. Donc ce petit crabe, en fait, c'est une sorte de parasite qui est arrivé là tout petit.
Comme une larve, quoi.
Comme toutes les petites larves, ouais, du plancton, ça, et il a grandi dedans, peinard, comme ça, dans sa petite moule. Donc il attend que les particules lui arrivent dans les mandibules, ouais. et il se serre, quoi. Donc c'est quand même un petit peu gênant, parce que à l'échelle humaine, ça ferait un corps étranger de 20 cm de diamètre, quand même. C'est un petit peu gênant pour la moule. Donc il vit comme ça. On l'appelle le crabe petit pois, parce qu'il est rond et petit comme un petit pois.
Il est comestible pour nous, les humains ?
Bon, ça croustille, mais c'est pas dangereux.
C'est pas
on l'appelle
pas.
Aussi pinotaire, parce que il y a plusieurs crabes dans plusieurs mollusques, notamment dans la pine noble, pas la pine d'huître, hein, la pina nobilis.
Vous l'avez placé.
C'est...
ça y est. Ah, il y avait un défi. Il y avait un défi lancé par Coralie Lutigny, notre productrice.
Mais on reste de notre sujet. La pine noble, pina nobilis, donc c'est son nom réel, c'est la grande nacre qu'on voit en Méditerranée, qui est très rare,
oui.
Qui est le deuxième plus grand coquillage du monde après le bénitier.
Ah,
qui a aussi son petit pinotaire, et ça veut dire gardien de la pine, en fait.
Comment vous les corrigez sérieux, nous on
va revenir au moule,
voilà,
c'est beaucoup plus calme.
Moi, je suis inquiète pour ce petit crabe qui a besoin de se reproduire, forcément.
Et
il fait
oui.
Comment? Parce qu'il est enfermé dans la moule.
Et voilà, donc il y en a un qui doit se dévouer pour aller chercher un ou une partenaire, donc c'est le mâle qui s'en va, qui se balade.
Il sort de la moule.
Voilà. Et sortir, ça va, mais le problème, c'est de rentrer dans une autre, parce que du coup, il est grand. Et il faut qu'il fasse assez vite. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, c'est drôle.
Non,
il faut qu'il fasse assez vite pendant que la moule est entrebâillée. Sinon.
Parce que c'est une rencontre à risque, c'est ça, là.
Mais sinon, on suit. Sinon, il est coincé,
il
peut y perdre des pattes.
Deux, c'est ça. Ah non, c'est les pattes.
Donc quand vous envoyez...
Ah, c'est que les pattes.
Parce que le zizi d'un crabe petit pois, ça va être bien grand.
Non.
Coupé par l'amour.
Donc quand vous voyez un crabe qui se balade avec des pattes en moins, c'est qu'il a eu plusieurs aventures.
C'est fou, ça. Non, alors, attendez, quel est l'intérêt il a, ce petit crabe, de vivre... Parce qu'il prend des risques, quoi.
Eh ben, son intérêt... Ah oui, ça, c'est la reproduction. Donc c'est un instinct qui est encore plus fort que la survie individuelle. Mais sinon, leur intérêt, c'est de vivre peinard dans une moule et de rien fiche.
Est-ce que quand il a trouvé la femelle, le crabe petit pois, donc dans la moule, est-ce qu'il reste comme tous les crabes,
il attend la mue, donc la femelle, il met des phéromones,
ouais, c'est bon,
donc le crabe, ça lui fait monter la mayonnaise, et du coup,
c'est meilleur le crabe avec un peu de mayo d'ailleurs.
C'est
très très clair.
Heureusement que j'avais qu'un seul défi.
Oui.
Je pleure des yeux.
Oui.
Alors.
Ah bah c'est mieux que les homards.
C'était
voilà.
Une joie à ça.
On y revient. Est-ce que ça arrive que deux petits crabes, des crabes petits pois, là, ils restent ensemble?
Ah bah oui, alors des fois quand on en découvre deux, et notamment au Japon, on découvre le couple, quoi. Et au Japon, les petits crabes petits pois sont un symbole de fidélité pour les Japonais.
Ah ça se termine bien, avec un peu de morale.
Et les bébés, attendez, c'est terminé, parce que les bébés de ces crabe petit pois, ils ont été conçus...
Ah bah oui, mais ils sont tout petits. Alors c'est 200 œufs.
Ouais.
Ils ont été conçus sous le manteau de la moule.
Ouais.
Et ils sont éjectés, pareil, au moment où ils sont éclos, et ils vivent leur vie dans le plancton.
Vous avez un métier merveilleux, Marc Giraud.
Bah oui, j'adore. Marc Giraud, vous publiez donc La vie extraordinaire des animaux chez Pocket. Ça va pas s'arranger, parce qu'on y découvre la crépidule. Quel est le nom de savant de la crépidule? Ça se mange pas, la crépidule, déjà.
Non, c'est un parasite des bancs d'huîtres qui est arrivé avec les bateaux du débarquement. C'est ce qu'on appelle une espèce invasive qui vient de loin. Et son nom latin, c'est Crepidula fornicata.
Bon, d'accord. Voilà, comme ça, on reste dans le thème. Alors, qu'est-ce qui lui vaut ce magnifique nom latin ?
Eh bien, en fait, on croyait que c'était à cause de ses mœurs débridées que je vais vous raconter, parce qu'elles le sont. Mais en fait, non, ça vient de fornix, parce que sa coquille a une forme d'arche. Mais il y a un scientifique très sérieux, Stephen Jay Gould, qui s'est dit comment ça se fait qu'il savait que les crépidules étaient vraiment très très chaudes, alors que Linné, qui les a décrites, n'avait vu que des coquilles dans un tiroir. Donc en fait, il a quand même trouvé un rapport, c'est que fornix, ça veut dire arche, c'est là où les prostituées opéraient, et les chrétiens qui allaient aux prostituées ont inventé le verbe fornicare, qui veut dire aller aux.
Extraordinaire.
Voilà, génial. Donc il y a quand même un petit rapport.
Et donc ces crépidules
Alors c'est des transsexuels aussi.
D'accord.
Donc, mais elles font de l'amour de groupe, si vous voulez. Donc les crépidules s'entassent, si vous voulez. Elles se mettent les unes sur les autres. Donc c'est pareil, elles commencent mal. Si une autre arrive, un autre mâle, et se met sur son dos, celle du bas se transforme en femelle. Mais le problème, c'est que comme ça, elles font des sortes de bartouzes, faut le dire.
On
trouve comme ça tout emboîté. Donc en bas, il y a les femelles.
Oui.
En haut, il y a les mâles.
Oui.
Et entre les deux, il y a celles qui changent de sexe. Parce qu'elles sont pas contrariantes, voilà. Et alors comment elles font pour se féconder? Les mâles du haut, un pénis à rallonge. qu'ils envoient en mission loin parce qu'ils peuvent pas bouger. C'est le zob qui fait le job, si vous voulez.
C'est extraordinaire. Voilà. Bon, vous allez pas y croire, mais j'ai encore un petit
sombre.
La curiosité est un vilain défaut.
Chères huîtres, comme vous êtes jolies et même appétissantes, faisons un tour en bons amis à marée descendante.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Petites huîtres, petites huîtres. Mais les petites huîtres ne répondent pas. Cela n'avait rien d'étonnant car elles avaient été gobées.
Sur RTL.
La mer des pauvres.
Serge Reggiani et un extrait d'Alice au pays des merveilles. On est toujours avec Marc Giraud, notre naturaliste de terrain préféré sur RTL, et vous nous dites tout de la sexualité de notre plateau de fruits de mer. On va terminer avec les oursins. Bon, j'imagine qu'ils s'accouplent déjà par voie externe vu la configuration.
Ils n'ont pas un physique qui prête au câlin, ça c'est sûr. Donc ça se fait tout à distance, et c'est tous ensemble. Il y a une espèce de fête sexuelle, pareil quand il y en a un qui lance ses gamètes. Les autres sont avertis, donc ça les excite et hop, c'est tous en même temps. Des fois, c'est à certaines périodes, comme les coraux, la pleine lune ou des choses comme ça. Donc, ça fait des nuages de gamètes sexuelles dans l'eau et ça se féconde au hasard des courants.
Et parfois, il y a des fausses alertes en quelque sorte.
Oui, parce que malgré leur piquant et leur protection, les oursins se font quelquefois manger par des poissons. Et quand un poisson croque un oursin, il lui éjecte aussi les gamètes, qui sont des signaux aphrodisiaques pour tout le monde.
Et tout le monde
s'y met. Et c'est la fête pour tout le monde, alors que l'autre est en train de se faire bouffer. Et voilà, c'est automatique chez
eux. On retourne à notre plateau de fruits de mer. Marc Giraud, quand on mange ou qu'on nous présente un oursin à manger, on mange quoi finalement dans l'oursin ?
Les organes génitaux, c'est tout. Voilà. Il n'y a que ça qui est bon. Donc c'est les cinq masses oranges là, et c'est avec ça qu'ils se reproduisent. Voilà, bon appétit.
On est informé.
C'est toujours tout. Bon, c'est bon. Hein. C'est comme dans le poulpe, dans le poulpe sur les 8 tentacules.
Il y a un pénis.
Il y en a un qui sert à la reproduction.
Oui, voilà. Oh oui, mais bon, c'est juste un vecteur. Oui, c'est pas.
Merci Marc Giraud.